Il est 11h sur Radio Campus Tour, auditeurs, auditrices, c'est la Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et il sera question dans cette émission de la 5e édition de la France Design Week qui aura lieu en région Centre-Val de Loire du 18 au 30 septembre 2024 sur le thème « Simplicité ». Ce festival national du design a pour objectif de sensibiliser le grand public en mettant à l'honneur tous les champs du design. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio deux invités. Régine Charvet-Pellot, bonjour.
Bonjour.
Alors Régine Charvet-Pellot, vous êtes expert sensoriel, directrice générale RCP Design Global, Certes Sens, et commissaire France Design Week Loire-Vallée pour Valsens. Vous êtes ici dans le studio avec Aurélie Minois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes design manager, directrice opérationnelle habitée surcyclée depuis 2024, après avoir porté ce projet au sein de Valsens. Alors mesdames, peut-être tout d'abord quelques mots sur l'édition régionale de la French Design Week. Est-ce qu'il y a des temps forts desquels vous aimeriez parler plus en détail à nos auditeurs et auditrices?
Eh bien écoutez, simplicité, c'est déjà sur la totalité de la région centre avec 70 événements culturels orientés design. Et plus particulièrement à Tours, je dirais qu'on a le vaisseau amiral à l'hôtel Gouin, où nous avons plusieurs expositions sur la thématique de la simplicité pendant les 15 jours de la manifestation. Et puis également le 23 septembre, nous avons la journée nationale du design, où là, c'est plutôt un congrès, un colloque, pour réfléchir au palais des congrès sur ce qu'est le design, ce qu'il apporte sous ses formes de simplicité. Donc là, tous les étudiants sont invités à s'inscrire sur le lien que certainement vous pourrez porter à leur connaissance ou sur le site Valsens. Et nous avons une très belle salle de plus de 600 places ouverte à l'inscription. Et puis ici, nous avons également l'Office de tourisme qui propose d'une manière extrêmement intéressante, une exposition sur des nouvelles façons d'approcher le tourisme par le design, avec la présence d'un artiste très très intéressant qui s'appelle Jean-Luc Jérôme, qui crée une voiture, si on peut dire, un tricycle un peu amusant, ressemblant à des mobilités douces. Et enfin, il y a énormément de choses, je dirais, mais il y a aussi une très belle conférence à la Bibliothèque centrale de Tours le 18 septembre sur la thématique de simplicité et design, sur le travail d'un certain nombre de photographes qui sont restés ici dans notre région pendant 3 mois pour réfléchir à la simplicité, dont l'expo sera évidemment montrée à Gouin, à l'hôtel Gouin. Donc vous voyez énormément de choses. Et puis, on peut parler de la petite nouveauté. La nouveauté, c'est que nous ouvrons deux restaurants. Évidemment, ils existent déjà, mais nous ouvrons deux restaurants France Design Week que nous avons appelé le restaurant des villes et le restaurant des champs. Le restaurant des villes, c'est l'ancien foyer des jeunes travailleurs qui s'appelle maintenant Chez Monsieur Henri. Et je suppose qu'Aurélie va pouvoir vous en parler formidablement bien parce qu'il est entièrement aménagé avec du mobilier de la manufacture habitée surcyclée. Tout comme le restaurant des champs à Saint-Paterne-Racan où la manufacture s'est installée. Et là, on a l'ancien hôtel-restaurant qui ouvre son restaurant tout le temps de la manifestation avec un repas simple à déguster pendant tout le temps de la manifestation et aussi aménagé par Habité Surcyclé. Et si chacun de vous visite les expositions de Tours, en prenant un petit signet qui existe et qui sera distribué gratuitement sur l'ensemble des lieux d'exposition, eh bien, chacun pourra aller déjeuner en se voyant offrir une boisson. Ce qui est assez amusant.
Merci pour ces informations. Alors, en effet, Aurélie Minois, on aura le plaisir d'en savoir plus sur cet aménagement de chez Monsieur Henri un peu plus tard dans cette émission. Mais pour rester encore un moment sur le programme de la French Design Week, donc on voit un nouveau quartier général, donc c'est l'hôtel Gouin.
Alors effectivement, jusqu'à présent, nous étions basés à l'hôtel consulaire, qui était l'ancienne chambre de commerce en hypercentre, dans un magnifique hôtel particulier du 18e. Là, nous changeons d'époque, si l'on peut dire. Cet hôtel est en travaux. Donc, le conseil départemental nous a mis à disposition un autre hôtel particulier absolument splendide, qui est l'hôtel Gouin, qui est juste à l'entrée du quartier Plumereau, juste avant de rentrer dans le quartier Plumereau, sur la droite, un petit peu devant le CCCOD, donc le Centre d'art contemporain de la ville de Tours. Et là, c'est un hôtel particulier Renaissance, beaucoup plus intime, si l'on peut dire, où nous présentons vraiment sur chaque étage des niveaux d'exposition sur la simplicité très différentes. Il y a un étage sur les designs professionnels, un étage sur les challenges, où c'est le résultat des concours que Valessence, l'association qui organise France Design Week, propose tout le long de l'année, des concours professionnels de designers sur le cuir, les chutes de cuir, et des concours plus grand public, une campagne d'adoption de chaises d'école cette année. Et tout en haut, c'est l'étage des simplicités, où là, on a quatre expositions sur une très belle thématique de la simplicité, sur des photos, des détournements de réservoirs de motos et des jeunes designers qui présentent la maroquinerie de luxe, mais d'une manière exceptionnelle.
Et donc, toutes ces expositions sont à voir gratuitement ?
Alors, évidemment, c'est la force de Valessence et de France Design Week. Tout est ouvert gratuitement, le colloque, les congrès. Évidemment, les restaurants, pas vraiment.
Oui, quand même.
Mais l'ensemble est tout à fait ouvert à la visite, en sachant que c'est une façon aussi de comprendre que le design et les designs ne se font pas d'une manière, je dirais, naturelle et allant de soi, mais que derrière toutes ces démarches et ces projets, il y a des designers, et que ces designers, très souvent, ils sont de notre région, et nous les valorisons et nous les présentons.
Alors, je regarde encore un instant ce que j'ai la chance d'avoir entre les mains, le catalogue simplicité donc de l'événement, et je vois parmi le comité d'organisation, parce que je pense que c'est à souligner aussi qu'il y a plein de personnes derrière l'organisation, ils sont trop nombreux donc je ne peux pas tous les citer, mais au hasard je vois par exemple Angela Altès Mathieu, donc je la cite parce que c'est la responsable régionale de Pépite Centre-Val de Loire, et comme on est Radio Campus, c'est vrai qu'on s'intéresse aussi à ce que fait Pépite, et je crois que là il y a une visioconférence qui est proposée dans ce cadre-là.
Absolument. Alors déjà, je tiens à vous signaler que Angela a été présidente de Valessence pendant quelques temps. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à notre approche et à notre démarche. Et effectivement, elle est dans le comité d'organisation depuis le début, donc depuis 5 éditions. Et elle propose de travailler sur un webinar. Vous voyez, il y en a tellement. Donc le 18, de 12h30 à 14h, avec Pépite et Copia, pour, dans la démarche de simplicité, comprendre et accéder aux possibilités de se lancer comme entrepreneur sur les métiers de la création. Et je pense que c'est une façon très intéressante d'appréhender et d'approcher les choses. Et c'est sur le site francedesignweek.fr ou valessence.com que vous pouvez vous inscrire sur ce webinar.
Voilà, n'hésitez pas, on mettra évidemment les liens vers le site sur le podcast de cette émission. Alors j'en reviens, chers invités, peut-être à vos deux structures. Je crois qu'il y a une histoire qui les lie l'une à l'autre. Est-ce que vous aimeriez nous en dire plus sur Valessence et sur Habiter sur Cyclé ?
Absolument, avec grand plaisir. Donc, il se trouve que Valessence n'organise pas seulement des manifestations culturelles. Elle a une stratégie beaucoup plus importante de valorisation du territoire par le design. Et dans ce cadre-là, en 2022, quelques mois après que Aurélie ait été, embauchée par Valessence, nous avons eu la chance d'être labellisés au niveau national par le ministère de l'économie comme PTCE. Alors, c'est un gros mot, bien sûr. C'est un pôle territorial de coopération économique. C'est-à-dire, nous sommes devenus partie prenante de construire des projets culturels, économiques, circulaires et solidaires autour du design. Et nous sommes devenus incubateurs de projets d'économie circulaire grâce au travail déjà absolument intense qu'a produit Aurélie et une grande partie de notre conseil d'administration qui a vraiment travaillé à ce sujet. Et notre approche, c'est de dire, voilà, c'est bien de montrer, mais c'est bien de construire. Donc, nous allons construire des nouvelles formes d'entreprise avec le design sur ce qui est très important aujourd'hui, les démarches de transition écologique. Donc, nous allons réfléchir à comment monter une nouvelle forme d'entreprise. Et la nouvelle forme d'entreprise, nous allons l'incuber. Donc, nous avons fabriqué, imaginé, habité, surcyclé. Nous l'avons incubé pendant quasiment 2 ans et demi. Et c'est Aurélie qui s'en est entièrement occupée pour construire ce modèle, ce nouveau modèle que nous avons appelé une fabrique d'estime. Alors, qu'est-ce qu'une fabrique d'estime ? Eh bien, c'est réunir d'une façon la plus optimiste possible l'estime des hommes, c'est-à-dire on peut travailler avec des professionnels, mais aussi des gens en insertion ou des gens à qui on va proposer de s'épanouir avec les métiers du recyclage, par exemple. C'est l'estime des ressources, enfin l'estime des déchets comme ressources, c'est-à-dire éviter d'imaginer que tout ce qui est rempli, nos poubelles ou les déchetteries, c'est sans valeur. Nous, on prouve exactement l'inverse. C'est l'estime des territoires, c'est-à-dire c'est aller s'implanter et en tous les cas aller implanter la manufacture en zone rurale, de manière à faire travailler, fonctionner les proximités. Donc, nous sommes installés à Saint-Paterne-Racan, à 35 minutes de Tours. Et enfin, c'est l'estime de la nature qui insère la biodiversité, le climat, les démarches de déchets, de façon à ce que nous produisions correctement, parce que c'est bien beau d'avoir le discours de valorisation de transition écologique, il faut que la production que nous mettons en place suive exactement de la même façon. Donc, Valessence a porté en son sein, dans l'incubateur, ce projet pendant 2 ans et demi. Et Aurélie vous dira avec plaisir certainement que ce projet a pris ses ailes, c'est sorti de l'incubateur, et elle vous dira comment tout à l'heure. Le 9 juin 2024.
Aurélie Minot, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Oui. Alors, effectivement, ce projet, il a commencé par une incubation avec un prototypage qui est né à la fois d'une première expérimentation. Donc, Valessence avait proposé à un jeune designer, Alexandre Estevez, de passer 2 mois dans une recyclerie accompagnée d'une personne en insertion pour utiliser les déchets qui étaient présents sur place pour proposer une collection d'une dizaine de pièces, d'une dizaine de meubles qui étaient exposés justement à la France Design Week. Ces meubles ont été présentés pendant la manifestation et Pierre Rocherie, donc qui est le directeur de l'IGERIS, est passé lors de cette manifestation et en voyant ces meubles, il s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir avoir du mobilier surcyclé pour équiper une nouvelle résidence qui est avenue Gramont. Et justement, il a rencontré Régine à ce moment-là. Et d'un prototypage, ils sont passés à une étape plus importante qui était de créer 200 meubles. Donc pour pouvoir créer ces 200 meubles, il fallait déjà trouver un local. Et c'est là que le maire de Saint-Paterne-Racan, M. Éric Laplot, est entré en scène et a proposé de réhabiliter un ancien hangar à pommes. On a installé à ce moment-là une manufacture assez expérimentale où les premiers outillages ont été offerts, c'était des dons de particuliers, donc pas forcément que de l'outillage professionnel dans un premier temps. Et une première équipe, une belle équipe, a commencé à travailler sur le projet. Donc une équipe composée de designers, d'ébénistes et de personnes en insertion. Après cette expérimentation, ces 200 meubles ont été livrés à la résidence Avenue Gramont. On a commencé aussi à avoir des commandes d'autres entreprises. Et du coup, on a équipé à Saint-Paterne-Racan le restaurant avec un bar réalisé sur mesure pour l'archipel et un aménagement de chambres pour apprentis. On a aussi eu la possibilité d'aménager des espaces communs pour la résidence de l'association Alva, qui se trouve également dans les murs de l'ancienne poste avenue Gramont, où l'IGERIS a aménagé ses chambres étudiants. Et là, on avait un cahier des charges assez particulier où il fallait pouvoir aménager le lieu et qu'il soit propice à des personnes atteintes d'autisme. Donc, ces différents projets ayant pris de l'ampleur, on ne pouvait plus porter ce projet uniquement en tant qu'association. C'est pour ça qu'on a passé le cap de devenir une entreprise à mission. Donc depuis début juin actuellement, on continue de travailler plutôt pour un marché en B2B, donc pour les entreprises, pour aménager des restaurants, des espaces communs, des chambres d'étudiants, des espaces à vivre où vont des fois se cohabiter plusieurs personnes et plusieurs moments de la journée. Du coup, cette entreprise donc, qui se trouve à Saint-Paterne-Racan maintenant est composée de 4 salariés, donc 2 menuisiers et un logisticien ressourceur qui est également assistant menuisier.
Donc vous êtes chef d'entreprise?
Oui, effectivement.
Alors c'est un nouveau rôle peut-être pour vous?
Oui. En tant que designer et designer manager, j'avais l'habitude d'encadrer des personnes, une équipe pour des projets. Mais là, c'est une étape en plus, effectivement, d'être responsable d'entreprise.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce nouveau rôle?
De faire des choses concrètes qui ont du sens. Je pense que c'est aussi pour ça que le fait de surcycler du mobilier est particulièrement intéressant et devient même une évidence par rapport à notre époque. On se retrouve avec beaucoup de meubles qui sont abandonnés par leurs propriétaires, d'anciens meubles qui sont soit jetés en déchetterie ou aux encombrants. Et pourtant, c'était des meubles de bonne manufacture qui étaient faits avec du bois massif, qui ont une certaine durabilité et qui peuvent être retravaillés. Aujourd'hui, le style de ces meubles ne plaît plus forcément, donc ils ne trouvent pas de repreneur. Et l'idée a été également de monter un club des donateurs pour proposer à la fois aux particuliers ou aux entreprises qui souhaitent se débarrasser de leurs vieux meubles une solution alternative à la déchetterie. Et par le don de ces meubles, ils vont pouvoir leur donner une nouvelle vie au sein de la manufacture.
Et alors, pour les puristes, quelle est la différence entre surcyclé et upcyclé? Est-ce que c'est pareil?
Alors, c'est le terme français qui va être le surcyclage, mais c'est de l'upcycling également, le terme anglais. Le surcyclage, en fait, c'est du recyclage auquel on va apporter une valeur ajoutée, justement par le design. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que restaurer un meuble, on va aussi le repenser en termes d'usage, on va lui apporter une valeur ajoutée à la fois émotionnelle, le recomposer en fonction des besoins, et puis le faire correspondre à un environnement, parce que en fonction des commandes de nos clients, ben, on va pouvoir s'adapter à différents styles.
Est-ce que ça vous semble juste si on dit que le designer a un rôle social ?
Oui, oui, clairement. De toute façon, le designer est connecté aux hommes. On travaille pour les hommes avant tout, en utilisant les moyens de notre époque et avec une prise de conscience également, que ce soit dans l'usage ou dans la façon de consommer. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être designer sans avoir une certaine frugalité, à se dire qu'on va aussi mesurer ce que l'on fait et l'impact que l'on pourra avoir dans le temps.
Qu'en pensez-vous, Régine Charvet-Pellot ?
Moi, je suis une grande défendresse de cela depuis très très longtemps, puisque j'ai moi-même une agence de design depuis de très nombreuses années, où notre ligne directrice n'était certainement pas de dessiner des objets consommables, mais pour durer au bon sens du terme, c'est-à-dire pour accompagner la qualité de vie des gens et non pas pour juste les faire consommer. Et là-dessus, c'est extrêmement important aussi. Le designer a une très grande responsabilité, d'où ma position également d'avoir initié et imaginé cette association en 2005, Valescence, pour la séparer de notre activité professionnelle et en même temps pouvoir partager cette vision du design et de l'accompagnement de la société avec le plus grand nombre, puisqu'en fin de compte, cette approche est vraiment partagée avec les créateurs et les designers de notre région.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'écologie sensorielle du design ?
Vaste sujet. Alors, l'écologie sensorielle du design, c'est un cheminement que nous avons mis en place sur notre laboratoire, qui est basé d'ailleurs au de Lyon.
On est voisins.
On est voisins, absolument. Donc, l'écologie sensorielle du design, c'est imaginer par le design que, en dehors de l'approche technique, technologique, ergonomique et jolie, le design, ça ne sert pas juste à faire joli, on donne du plaisir, du bien-être et du confort aux gens. Ça, c'est la démarche, je dirais, sensorielle, dans l'écologie sensorielle du design. Et l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, il faut que ça rentre dans un cadre de durabilité environnementale et de transition écologique obligatoire. Il est, je dirais, inadmissible que les designers travaillent sur des objets qui se jettent en très peu de temps. Donc nous avons une responsabilité sociétale et nous avons décidé de mettre en place cette démarche d'écologie sensorielle du design il y a 5 ans déjà. Et la filière dans laquelle entre Habiter Surcyclé, la filière que nous mettons en place dans l'association et qui a été, je dirais, labellisée pôle territorial de coopération économique, va travailler de telle sorte que cette filière d'écologie sensorielle du design va profiter en même temps aux designers, aux gens d'insertion, à la construction d'entreprises et à la consommation. Puisque quand nous montons une opération comme la campagne d'adoption créative, là, cette année, de chaises d'école, l'an dernier, de chaises Louis XIII sorties d'une résidence senior, eh bien, c'est simplement pour montrer que on a une approche pédagogique dans la consommation et que grâce à cette démarche et cette approche de designer, on peut toujours extrêmement bien vivre tout en utilisant différemment la ressource.
Alors, nos auditeurs ont pu entendre récemment sur nos ondes Caroline Jovenot, donc qui est directrice générale de Jeunesse et Habitat. Elle décrivait avec enthousiasme ce nouveau espace convivial pour aller manger, donc au restaurant chez Monsieur Henri, dont vous avez parlé. Et je vous propose maintenant d'écouter une courte interview de Pierre Rocherie, qui lui est directeur général chez Ligeris, donc vous l'avez mentionné également tout à l'heure Aurélie Minois. Et donc là, il évoque la résidence Molière, avenue Gramont, qui a été inaugurée en juillet dernier. Alors, c'est parti, je lance cette interview. On se retrouve tout de suite après, c'est la Méridienne, c'est toujours Radio Campus. Bonjour Pierre Rocherie.
Bonjour.
L'IGERIS, c'est un bailleur pas comme les autres.
Donc l'IGERIS, c'est l'opérateur immobilier de la ville de Tours qui a un patrimoine varié, constitué majoritairement de logements sociaux, mais également de logements non conventionnés, appelés également libres. Notre patrimoine est également constitué d'immobilier tertiaire, immobilier d'activité, de commerce, de proximité, de locaux divers et variés, des échoppes dans le Vieux-Tours par exemple, des murs de résidences personnes âgées, des murs de crèches, de commissariats de police par exemple.
Vous êtes, disons, sous l'égide de la ville de Tours, c'est un bailleur où il n'y a pas d'actionnaire, donc pas de dividendes, comment ça marche ?
Tous les résultats de la société sont majoritairement réinvestis dans l'entretien et la maintenance de notre patrimoine ainsi que dans son développement. D'ailleurs, nous prévoyons dans les prochaines années de construire plus de 1000 logements, donc principalement sur les communes de Tours, mais également sur les autres communes de la métropole.
Et donc ça répond aussi à l'obligation d'avoir du logement social sur son territoire ?
Effectivement, le principe d'un territoire dynamique et accueillant, c'est proposer des logements, proposer en priorité pour l'IGERIS des logements sociaux, effectivement, mais pas que, puisque notre plan de développement prévoit donc la construction de 1000 logements avec une majorité de logements sociaux, mais également du logement dit intermédiaire ou non conventionné.
Si des étudiants nous écoutent, ils peuvent potentiellement faire appel à l'IGERIS.
Effectivement, il nous reste encore quelques logements à cette rentrée universitaire. Une dizaine de logements meublés restent disponibles sur le secteur Giraudot et également quelques logements non meublés sur l'ensemble de notre patrimoine, des studios et des types 2. Nos offres sont également disponibles sur notre site internet ligeris.com.
Étudiants, souvent, c'est un petit budget.
Alors, nos studios meublés actuellement disponibles sont au tarif de 465 euros. Toutes charges comprises, y compris l'accès Internet. La majorité de nos logements ont des loyers qui sont inférieurs de 20 à 30% à ceux du marché privé. Donc il ne faut pas que les étudiants hésitent à contacter nos équipes pour connaître nos disponibilités.
Est-ce que vous prenez la garantie Visale pour ceux qui d'aventure n'auraient pas de garant ?
Oui, nous acceptons la garantie Visale pour tous les locataires et tous les jeunes qui n'ont pas de garant famille ou personne physique.
Je crois que sur un volet associatif, l'IGERIS intervient aussi.
Nous accompagnons beaucoup d'associations sur le territoire en mettant à disposition des locaux. Donc ces locaux sont attribués dans le cadre d'une commission qui est portée par la ville de Tours. Et ces locaux sont mis, on a environ 200 locaux qui sont mis à disposition d'associations et d'autres structures dans nos quartiers, au pied de nos immeubles, pour faire vivre les différents quartiers dans lesquels l'IGERIS est présent.
Je crois qu'il y a une résidence qui s'est ouverte récemment, avenue Gramont.
Nous venons effectivement de livrer une résidence constituée de 27 logements, avenue Gramont, au numéro 153, une résidence un peu particulière, puisqu'elle accueille ce qu'on appelle de l'habitat inclusif, donc des jeunes autistes Asperger, qui sont accompagnés dans le cadre de leur autonomisation par l'association ALVA. Et en complément de ces 6 logements à destination de ces personnes, de ces jeunes, nous proposons 21 logements meublés de manière un petit peu particulière, puisque nous avons fait le choix d'acheter 200 meubles à une équipe constituée de Valsens et de RCP, 200 mobiliers qui ont été fabriqués à partir de mobiliers, de meubles récupérés en déchetterie. Et ces 200 meubles ont été livrés et meublent aujourd'hui l'ensemble de nos 21 logements, donc situés dans notre résidence Molière, avenue de Gramont.
Et alors l'association ALVA, vous l'avez déjà présentée, comment est venu ce troisième acteur dans ce projet-là ?
Alors nous souhaitions une mixité, ce qu'on appelle une mixité d'usage dans ce nouvel immeuble réhabilité. Et dans le cadre de nos différents contacts, nous avions identifié un besoin porté par l'association ALVA, présidée par Gilles Souchard, un besoin de logement adapté à un handicap particulier qui est l'autisme. Donc nous avons travaillé avec les équipes d'ALVA, les équipes du CHU, pour imaginer des logements adaptés à ces jeunes en recherche d'autonomie. Et pour cela, donc, nous avons été accompagnés par ALVA dans le programme d'aménagement de ces logements. Et ensuite, ALVA a accompagné le projet d'autonomisation de ces jeunes avec... dans un local mis à disposition par l'IGERIS, donc au pied de cet immeuble, un local dans lequel ces jeunes apprennent à s'autonomiser, apprennent ensemble à faire la cuisine. Il y a tout un tas, au-delà de cela, tout un tas d'activités pour leur permettre de vivre bien dans leur logement.
Est-ce le premier projet de cette ampleur que porte l'IGERIS ?
C'est effectivement le premier projet d'habitat inclusif que nous accompagnons. Un nouveau projet est en train d'émerger dans une autre de nos résidences qui sera située à Tournord, la résidence Pinguet-Guindon. Et c'est un projet que nous portons avec l'association APF, l'Association des paralysés de France, avec une dizaine de logements, toujours sur le même principe d'habitat inclusif, donc pour permettre à des personnes en situation de handicap de vivre de manière autonome dans des logements adaptés.
Est-ce qu'il y a un projet particulier en cours dont vous aimeriez nous parler ?
Peut-être notre actualité, c'est la livraison d'un bâtiment situé à Tournord de 55 logements mis à disposition des compagnons du Devoir et du Tour de France pour loger les compagnons à partir de cette rentrée, à partir de l'automne prochain. Également beaucoup de projets de réhabilitation de nos différentes résidences sur tous les quartiers de la ville. Une opération de réhabilitation située au pied de la gare, la résidence Jacquemin. Nous avons souhaité réhabiliter pour atteindre un bâtiment basse consommation. Donc beaucoup de projets au sein de nos équipes, tant en termes de livraison de programmes neufs que de réhabilitation de nos résidences.
Est-ce que ça aurait du sens pour l'IGERIS de faire partie de l'URAGE, qui est l'association autour du logement pour les jeunes ?
Alors, on est présent et on participe à cette structure de manière indirecte. Donc, on met par exemple à disposition des logements auprès de l'association Jeunesse et Habitat pour accompagner à l'intégration de jeunes en difficulté. On met à disposition également des logements auprès d'autres associations, Émergence, Entraide et Solidarité et beaucoup d'autres associations pour favoriser l'inclusion et le logement de personnes en situation précaire ou pas d'ailleurs. On accompagne vraiment beaucoup d'associations sur le territoire qui œuvrent pour le logement des jeunes.
Alors peut-être qu'on peut rappeler à nos auditeurs où retrouver toutes ces informations et où faire une demande de logement.
Alors, je vous propose de contacter soit directement par téléphone l'IGERIS au 02 47 700 200, soit à consulter notre site internet qui est très riche en informations avec le patrimoine disponible au jour le jour et également toutes les demandes de logement à compléter et à déposer auprès de nos services via nos différentes adresses mail accueil@ligeris.com ou toutes les adresses indiquées sur notre site internet.
Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur cette intervention ? Moi, je crois qu'il y a à souligner peut-être l'idée que c'est du design pour tous, parce qu'on a peut-être l'image aussi que le design, bah, c'est cher. Donc, du coup, comment on arrive à trouver des productions de design dans des structures qui ont vocation à accueillir des publics avec peu de moyens ?
Là, je pense que je peux répondre. Effectivement, dans cette optique de créer du mobilier surcyclé, l'idée c'est de partir déjà de mobilier existant. Donc on a des meubles qui arrivent en plus ou moins bon état, certains peuvent être complètement cassés. À ce moment-là, on récupérera des pièces, des morceaux de meubles que l'on va utiliser un peu comme des ingrédients, comme pour pouvoir recomposer de nouveaux meubles. Et puis d'autres arrivent dans de meilleurs états. Après, le travail du designer va être de pouvoir recomposer à partir de ces meubles existants et puis de ces morceaux de meubles, de nouveaux meubles qui correspondront à un cahier des charges spécifique pour un client, donc qui soit destiné à un restaurant. Donc là, on va avoir un usage assez intensif, ou alors pour des appartements. Dans ce cas, il va falloir aussi penser à la fois au confort, mais à comment la personne va vivre avec, va cohabiter avec ses meubles et puis ses habitudes, si c'est un étudiant, comment optimiser l'espace, ce genre de choses. Et effectivement, là où va être notre force, c'est qu'on va être aussi assez économe dans la manière de réfléchir à comment améliorer ce meuble, comment le recomposer sans faire exploser les coûts de production, parce qu'on est quand même sur un atelier qui est situé en France. Ce qui nous reviendra pour nous le plus cher, ce sera la main d'œuvre, puisqu'effectivement ce sont des savoir-faire de pouvoir réparer notamment des meubles anciens avec des mécanismes qui ne se font plus aujourd'hui, et en même temps avoir une vision de production un peu plus de manière petite série pour pouvoir diminuer les coûts quand c'est possible. Grâce à ça, on va réussir à pouvoir sortir des meubles assez compétitifs en termes de coûts par rapport à du mobilier neuf. Et on aura pour aussi avantage que le chemin parcouru par ces meubles, au total, n'excédera pas 200 km entre le moment où ils ont été collectés, leur arrivée à la manufacture et la livraison chez le client.
Alors, vous disiez tout à l'heure que le design, ce n'est pas juste une idée d'être joli. Pour autant, quand on regarde le restaurant chez Monsieur Henri, par exemple, on voit qu'il y a quand même des rimes plastiques, il y a des échos entre les couleurs, il y a des correspondances. On voit par exemple sur les meubles, je crois qu'il y a toujours un détail rouge, une jambe de rouge. Je me souviens qu'il y avait aussi une tapisserie qui faisait écho à un tissu sur une banquette. Donc il y a quand même toute une recherche esthétique, oui. Même si ce n'est pas le but premier.
Disons que le design comprend aussi l'esthétique. Ça fait partie d'un des aspects du design. Et quand on fait une production réussie, c'est qu'on a pris en compte tous ces facteurs-là, à la fois le coût, l'ergonomie, la fonctionnalité, et en même temps que le produit qui va sortir soit plaisant pour l'usager. Donc l'idée du comment harmoniser nos meubles alors qu'ils arrivent de gisements complètement disparates, et ça va être justement notre force de pouvoir réfléchir non pas un meuble unique, mais plutôt penser le design dans son ensemble. On va réussir justement à faire cohabiter du mobilier qui avait différents styles. Donc l'exemple de chez Monsieur Henri, c'est qu'effectivement du mobilier en formica va pouvoir côtoyer une balancelle de jardin, aussi bien que des meubles en bois, en rotin, en osier, et l'ensemble va être cohérent parce qu'on a réfléchi les finitions, on a réfléchi en termes de matière, on a réussi à donner un aspect vintage à des meubles tout en les modernisant pour qu'ils puissent être plaisants à l'œil, surtout aujourd'hui. Tout ce qui va être choix des couleurs, des finitions, va se faire aussi en collaboration avec l'agence de design RCP qui avait travaillé sur le design d'espace, pour que justement nos propositions, quand on va choisir un tissu ou choisir une finition, soient cohérentes avec l'idée première qui avait été envisagée.
C'est-à-dire que vous avez une base de données peut-être, avec des couleurs, des...
On se la constitue au fur et à mesure, parce qu'effectivement, l'entreprise étant assez récente, chaque projet est presque un nouveau prétexte et une nouvelle recherche. notre sensibilité en tant que designer va nous conduire à faire des propositions qui vont être cohérentes avec le choix du client. Un autre exemple avec le restaurant de l'archipel qui se situe à Saint-Paterne-Racan. Pour ce restaurant, on a créé un bar sur mesure uniquement à partir de mobilier qui provenait en même temps des habitants de Saint-Paterne. Il se trouve que les deux grands buffets qui nous ont servi à composer ce bar avaient été récupérés chez des habitants de Saint-Paterne. Donc c'était rigolo de pouvoir se dire que là on a fait un circuit extrêmement court, mais on a réussi aussi à lier l'ensemble, à créer un meuble avec une identité forte, justement en réfléchissant à comment agencer les différentes parties ensemble, les recomposer avec des pièces rigolotes comme par exemple des tiroirs. Et à chaque fois, vous avez notre signature qui est ce fameux pied rouge, un peu comme les chaussures Louboutin peuvent avoir le dessous de la semelle rouge. C'est une marque qui va pouvoir se reconnaître sur les meubles qui ont été retravaillés justement par notre manufacture.
Il y a un logo aussi.
Oui, le logo Habité sur Cyclé, qui justement suit les meubles. Chaque meuble est numéroté. Comme ça, on a aussi cet historique. Et puis, ces meubles-là, y a autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont une histoire. Ils ont vécu, ils ont des traces du passé, des traces qui pourront plus ou moins être enlevées, mais qui vont aussi servir de prétexte aux designers pour composer et pour trouver une marque originale dans la façon de les retravailler. C'est-à-dire qu'on va travailler la cassure, la partie abîmée d'un meuble, non pas en essayant de la faire disparaître complètement, mais plutôt en la magnifiant, un petit peu à la manière du kintsugi, où justement on va se servir de ce défaut pour en faire quelque chose qui va avoir un caractère unique.
Bon, sans couler de l'or dedans, j'imagine.
Non, sans couler de l'or, mais on va avoir des incrustations, des fois de matière, de cuir, des choses quand même qui vont venir sublimer le meuble. Si vous allez chez Monsieur Henri, vous verrez que certaines tables, justement, ont différentes finitions où on voit ces marques du passé, mais qui ont été sublimées.
Je vous propose de faire une pause musicale avant de parler peut-être un peu plus en détail justement des meubles qu'on peut voir aussi dans la résidence avenue Gramont, parce que j'ai eu la chance de visiter lors de l'inauguration. Et là, je crois qu'il y a aussi quelques histoires à raconter. Donc un peu de musique et on se retrouve tout de suite après dans cette méridienne.
ارباب خودم سلام علیکم
علیکم و سلام پیش ایشالله
ارباب خودم سر تو بالا کن
توی هر دو چشم ننی ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چرا نمیخندی ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم بس به کماله حاجی فیروزم
بله
ساری یه روزم
بله
حاجی فیروزم
بله
مثل نیم سوزم
بله
بشکن بشکنه
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
من نمیتونم
میتونی
چجوری بشکنم
تق تق
چطوری بشکنم
تق تق
اینجا بشکنم یار گله داره اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حاجی فیروزم
بله
سالی یه روزم
بله
سالی که گذشت سال بعد سالی که گذشت سال بعد بود سالی بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد مردا رو اخته کردی مردا رو اخته کردی زنا رو شلخته کردی دکونا رو تخته کردی رو خسته کردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی،
ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی.
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک،
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک.
یا هب یا هو، هر کی به کاری مشغول پولی بریست تو کشکول، یا حق یا هو، همه ی روزتان پیروز.
C'était Mortaza Amadi sur Radio Campus Tour dans la Méridienne à Jifirouz. Donc avec moi en studio, eh bien, Aurélie Minois, vous êtes toujours là avec nous. Merci de nous parler avec autant de passion de votre métier. Alors peut-être peut-on revenir sur cette résidence Molière qui s'est ouverte avenue de Gramont il y a à peu près 2 mois, parce que dans chaque chambre étudiante, il y a un assortiment, disons, de mobilier différents, et on trouve aussi des très beaux dessus de lit. Alors peut-être que vous voulez nous expliquer comment ont été créées ces collections par chambre.
Oui, et bien justement ce projet-là, il s'inscrit aussi avec un cahier des charges particulier, puisque le client a réaménagé une ancienne poste avenue Gramont qui date des années 50. Lors des visites, des premières visites du chantier, ils ont retrouvé des marqueurs du temps, notamment sur les murs, des anciennes peintures en grattant, et ils ont pu voir comment étaient peints les murs à l'époque. Et puis des ferronneries d'art, notamment avec des vitraux qui étaient présents déjà à l'époque où cette ancienne poste faisait office de bain public. Donc, quand ils ont réaménagé cette résidence, ils ont souhaité conserver cet esprit années 50. La réhabilitation a justement respecté ce design et toutes ces différentes facettes. Et le mobilier que l'on a proposé, donc mobilier surcyclé, devait aussi rentrer dans ce cadre style années 50. Donc à la fois dans notre recherche de gisements, on a mis l'accent sur le fait d'essayer de retrouver des pièces de cette époque. Et puis, comment recomposer à partir de meubles qui n'étaient pas de cette époque et donner cette sensation d'années 50. Donc notamment par la forme des pieds, les pieds crayons, qui sont vraiment significatifs de ce type de mobilier. Et puis les teintes, les bois, on avait à la fois des bois très clairs ou des bois plus sombres, ou du mobilier en rotin. Ce sont des choses que l'on retrouvait particulièrement dans les années 50, comme le métal ou le formica. Et chaque chambre a été réfléchie pour qu'elle s'harmonise et que l'on crée à chaque fois un petit univers pour chacune de ces chambres. Donc vous avez du mobilier assez particulier où on a été capable de récupérer sur des meubles cassés des marqueteries que l'on a pu revaloriser justement sur les meubles de ces chambres. Et à chaque fois, en réfléchissant de manière intelligente l'usage de ces étudiants, comment, avec un espace qui peut des fois être un peu plus étroit pour installer un bureau, des rangements, etc., réussir à combiner plusieurs fonctions en un seul meuble, des exemples de meubles ponts, comme on les a appelés, pour combiner donc toutes ces fonctions et en dégageant au maximum le reste de l'espace à vivre. Ce projet donc qui a été réalisé avec l'agence de design RCP et l'incubation de chez Valessence a également été intéressant parce que on a pu travailler avec dans le cadre d'un challenge entre les couturières de la Sénoferie et les étudiants en DNMAD mode du lycée Choiseul. Ils ont fait un genre de battle, de petits défis, où ils ont récupéré des tissus de seconde main de l'association Active et ils ont composé des plaids inédits avec un style années 50 mais travaillé justement, modernisé par ces différents créateurs. Chaque plaid a été aussi réfléchi pour pouvoir intégrer ces chambres et ces univers. Donc après on a accessoirisé, on va dire, les chambres pour que ces créations puissent s'intégrer le mieux possible. Et ces ensembles de plaids étaient intéressants parce qu'ils ont fait aussi participer d'autres acteurs tels que l'Estra qui a fourni des couettes pour l'intérieur de ces plaids, donc des couettes qui avaient au départ un petit défaut et qui ont pu justement être retravaillées par le biais de ces plaids. Et en même temps, c'était une opportunité de faire se rencontrer des gens qui n'auraient pas forcément travaillé ensemble pour dans le cadre de ce défi qui avait été également exposé à la France Design Week il y a 2 ans.
Et alors, il y a des clins d'œil multiples dans ces chambres, par exemple, même sur les choix des verres, je crois que c'est des verres Duralex.
Oui, alors ils ont fait appel à la la recyclerie de Semblancé pour justement utiliser de la vaisselle seconde main. Et en même temps, effectivement, on voit que les marques durables, quelque part, elles font partie du territoire. Donc, c'est intéressant.
Et alors là, j'ai des photos aussi que je pourrais mettre sur le podcast de cette émission qui ont été prises lors de l'inauguration. Donc, on voit des chaises donc, qui ont été récupérées et qui sont où il y a un ajout en fait, de matière, il y a un ajout de oui. peinture dessus.
Ou des patchs. Alors ça, c'était un projet que j'avais mené avec les étudiants du lycée Choiseul. On leur avait proposé un workshop pour retravailler ces chaises qui étaient abîmées. Et ils ont utilisé différents moyens plastiques et stylistiques pour pouvoir justement les réparer. Donc vous avez une chaise qui était quand même en très bon état, là, celle que vous m'avez montrée à la base, mais dont le tissu était marqué par le temps. Donc il y avait des petites taches qu'on ne pouvait pas enlever. Et elle a choisi, l'étudiante, de retravailler justement la tâche pour recréer un motif style années 50 sur cette assise et ce dossier. Donc effectivement, en recréant ce motif, les tâches se sont intégrées au design de la chaise.
Donc dans ces chambres, on trouve un bureau pour travailler, un meuble pour ranger, un coin cuisine aussi, un coin pour manger.
Oui.
Un plaid, forcément. Et donc, sur le coin à manger, on voit qu'il y a parfois un revêtement qui est fait de plein de couleurs, en fait, une matière qui oui. a été rajoutée sur des...
Oui, mais justement, alors cette matière, c'est du papier. C'est du papier compressé, du papier qui sert normalement à l'événementiel, qui reste en fin de parcours, en tant que déchet. Et une entreprise avec laquelle on travaille, Procédé Chenel, a eu l'idée de découper ce papier et d'en faire des plaques, voilà, en compressant cette matière. Et on s'est dit, mais ça pourrait être intéressant de la réemployer pour pouvoir fabriquer des dessus de table, des étagères, etc. Donc cette matière est imperméabilisée chez nous pour justement permettre un usage à la fois alimentaire, comme un coin repas, etc. Et ça donne aussi un petit esprit qu'on peut retrouver avec le formica, ça se marie très bien ensemble.
Merci à vous, Aurélie Minois, d'être venue dans cette émission pour nous présenter ces deux sites à voir sur Tours. Alors en tout cas, je pense que chez Monsieur Henri, ce sera évidemment ouvert pendant la French Design Week. Par contre, ça va être plus compliqué d'aller visiter la résidence avenue Grammont. Je pense qu'elle est maintenant habitée.
Ah, maintenant, elle est habitée. Donc, ce sont les résidents qui ont ce privilège-là. Mais vous pouvez également aller au restaurant L'Archipel, qui se trouve à Saint-Paterne-Racan, qui lui aussi a justement un bar qui est complètement atypique. Créé par notre manufacture.
Alors, quels seront les prochains projets sur lesquels vous allez travailler? Où pourra-t-on voir votre mobilier?
Actuellement, on travaille pour d'autres espaces communs de résidence qui devraient ouvrir leurs portes dans peu de temps, notamment pour Exéo. Et puis après, on a d'autres projets sous le coude. On attend encore avec impatience.
Voilà, bon bah peut-être reviendrez-vous pour nous en dire plus. Merci encore à vous, et donc on peut rappeler que la French Design Week édition régionale, sous l'égide de la simplicité, se tiendra à partir du 18 septembre jusqu'au 30 septembre. Voilà, rendez-vous à l'hôtel Gouin et aussi alentour. Merci à vous.
Merci.
Et merci aussi à Régine Charvet-Pélo d'être venue dans cette émission que vous retrouverez en podcast sur notre site radiocampustour.com et sur les plateformes. Bonne journée à toutes et à tous.